Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop, et c'est un mot plus dans l'orage.
Les flics tabassent, sortent le P38 et le flic du flingue de classe.
Les flics, la police
et
le vice.
Et par des keufs se font planer, c'est connu, dans le Parisien t'as des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi.
Soit du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt. Un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
Bonjour.
Coucou.
Alors, vous écoutez Radio Audio sur le 895, c'est l'heure du coucou. Mais aussi accessoirement, l'émission du numéro 0. Le numéro 0, c'est une émission radio tous les jeudis, un jeudi sur deux à midi, rediffusée à 17h le jour même. C'est aussi accessoirement un site internet http://lenumero0toutattaché.l'autre.net. Et voilà, c'est un endroit où vous pouvez publier vos articles à volonté. Et voilà. Alors, aujourd'hui, au programme de l'émission, on va revenir sur ce qui s'est passé il y a une semaine à peu près à Poitiers. On ne va pas faire un récapitulatif des événements, mais plutôt une discussion autour de ce qui a pu se passer et comment un certain nombre d'entre nous ont vécu la chose. Et après, on va parler du salon de l'autre livre, l'événement culturel et subversif de ce week-end. Avec une petite interview d'un monsieur Michel qui travaille pour les éditions Tiresias, et après une discussion avec des personnes qui organisent le salon, qui viendront ici dans les studios nous en parler. Voilà.
Bah, tout de suite, Poitiers, la police vous parle tous les soirs à 20h.
Dans le poste. Alors c'est parti.
Manifestation anticarcérale.
Manifestation festive anticarcérale.
Profiter plus exactement d'un rassemblement le samedi pour protester contre le transfert de détenus d'une vieille prison à une prison toute neuve.
Festif.
Ben voilà, après.
Ne veut pas dire a priori qu'on aura une distribution de petits vins du pays et de charcuterie locale.
Masqués, cagoulés.
Jets de pierres sur les vitrines et les abribus. Tags sur les monuments publics et religieux. Incendies de poubelles.
Mais ce sont surtout les banques qui ont été visées. Symbole du grand capital. Principale cible, les banques, mais aussi la boutique Bouygues. Le groupe est constructeur de la prison.
Casser la vitrine de Bouygues ou de telle ou telle succursale de banque.
C'est la police, elle a toujours du retard.
L'objectif n'a pas été atteint, qui était d'empêcher le transfert de détenus d'un centre vers un autre.
nous détruirons votre monde morbide.
Il est dans quelque chose de naissant qui annonce peut-être, je le dis avec beaucoup de prudence, mais qui annonce peut-être, vous l'avez dit, les nouveaux conflits qui sont plus les thèmes de la vieille société.
Sinon, aujourd'hui, on n'est plus autant de la gauche prolétarienne où il y avait des organigrammes et des choses très hiérarchisées.
On est contre la politique carcérale. C'est pas un hasard si ça a eu lieu samedi à Poitiers. Quand il ne reste plus grand-chose dans l'idéologie révolutionnaire, il y a la prison.
La contestation de la prison, c'est vrai que c'est vraiment un élément fédérateur du gauchisme, de l'ultra-gauchisme.
Le problème, c'est l'État, et le symbole le plus central de l'État, c'est sa politique carcérale.
On ne sait pas de qui on parle.
Ok, voilà, donc ça, ce que vous venez d'entendre, c'est un reportage en direct fait par notre envoyé spécial sur la planète Média. Voilà, donc un grand merci à lui. Donc c'est ce que, si vous suivez un peu les grands médias, vous avez dû probablement entendre et réentendre à propos de les événements, entre guillemets, de Poitiers. Donc voilà, en gros, on nous a dit que le 10 octobre à Poitiers, une manifestation anticarcérale dégénère en émeute extrêmement violente, etc. Donc il y a eu un matraquage médiatique qui a montré plus ou moins une seule version. On peut se demander si c'est pas uniquement la version de la police. Mais voilà, donc nous, ça nous a interpellés. On est allé fouiner ailleurs. C'est-à-dire, on s'est dit, il y a un point de vue qui est montré, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Donc, comme on est des bons citoyens, on s'informe sur Internet. Donc, on a fait comme plein d'autres gens. On a passé plein de temps sur Internet pour trouver des infos, des sons de cloche, des points de vue, etc. Donc, on va pas parler des faits en soi. On va parler des points de vue médiatiques, mais plus ou moins... le discours plus ou moins officiel ou le discours d'autres gens, voilà. Donc déjà, comme je disais, on a tout de suite entendu, moi je me souviens, le dimanche 11, je me réveille et j'entends à France Info, parce que je suis une bonne citoyenne et que je m'informe, qu'il s'est passé des choses extrêmement violentes, des gens ultra violents, etc., etc. Donc, déjà, je me suis dit, mais c'est quoi, en fait, la violence? Parce que, voilà, sans... enfin. Les sociologues, des fois, ils disent des conneries, mais pas toujours. Et par exemple, ça m'a rappelé la sociologie de la violence, qui dit que la violence, c'est très relatif, c'est selon un point de vue. Les choses peuvent être définies comme violentes différemment, selon les fois, et vécues comme violentes différemment, selon les fois. Donc bref, ça dépend du point de vue qu'on a d'une situation à un moment donné. Le discours dominant, donc, il dit la manif de Poitiers, ultra-violente. Mais par exemple, déjà, on peut lire et entendre ici et là d'autres gens qui disent « Bon, ça va, hein, c'est que quelques vitrines brisées, c'est quelques tags. Bon, faut remettre aussi les choses dans l'ordre. C'est pas un déferlement d'ultra-violence de jeunes gens couteaux entre les dents qui ont saigné la veuve et l'orphelin dans les rues, quoi. » Mais en tout cas, ce sur quoi je voulais revenir aussi, c'est qu'il y a d'autres faits qui ont été vécus comme violents par d'autres gens et qui ont moins été mis en avant, hein, curieusement. Donc, par exemple, plusieurs blogs et sites relatent l'attitude de la police après cette manifestation. Donc, principalement, le fait que le soir même, il y avait un concert. Donc, en fait, si vous voulez, à Poitiers, il y avait toute une journée qui était organisée à propos de la nouvelle prison de Vivonne qui allait ouvrir, et des gens disaient nous on n'est pas pour cette prison ni plus qu'une autre, en fait, ni plus celle-là qu'une autre. Et ils organisaient toute une journée de débats, concerts, etc., avec au milieu cette manifestation. Et donc le soir, concert, ça se prépare sympa et tout, et puis la police intervient. Donc c'est dans un lieu associatif privé où devait se tenir ce concert. Elle fait sortir tout le monde. Et elle contrôle l'identité d'une centaine de personnes, donc en les faisant s'asseoir dehors, les mains en l'air ou sur la tête, assises par terre dehors, pendant 5 heures. Voilà. Et quand les gens rentrent à l'intérieur, ils sont bien contents de trouver que tout le matériel de sono a été dégradé, entre autres, par exemple, de la bière versée dans le matériel, des trucs comme ça. Et donc, ils estiment les dégâts à 1 000 euros. Donc, voilà. Pour ça, tu peux passer en procès et aller en prison, à mon avis. Mais bon, bref, là n'est pas la question. Sinon, ensuite, bah, y a la répression policière et judiciaire qui s'abat sur les manifestants ou ceux qu'on suppose avoir été des manifestants. Et ben, elle a été décrite comme très violente aussi par certains. Alors après, on peut croire ou non en la justice. Hein, y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Il y en a qui lui font confiance, d'autres qui la trouvent aberrante. En tout cas, le lundi, donc le 12 octobre, il y a des gens qui avaient été arrêtés. Donc il y a environ 17 personnes qui ont été arrêtées suite à la manif. Certains dans les rues, je pense, et d'autres bah, suite au concert. Et il y en a qui passent en comparution immédiate au tribunal de Poitiers lundi. Et même les avocats, donc ces gens-là, ils sont censés croire en la justice un petit peu, même eux, ils disent c'est une aberration, ça s'est passé n'importe comment, etc. Et bah, le collectif anti-répression, donc qui est un collectif qui existait avant à Poitiers et qui s'est mobilisé sur cette histoire ensuite, eh ben, ils dénoncent des témoignages contradictoires des policiers, le zèle du procureur, et eux, ils voient derrière tout ça une manipulation médiatico-politique. Bon, en tout cas, en gros, il y a un discours assez large qui dit quand même ce procès, c'était une mascarade, mais bah, vous avez dû quand même entendre les résultats dans les médias, toujours si vous êtes un bon citoyen qui s'informe. Les condamnations étaient assez lourdes et ça va jusqu'à de la prison ferme pour plusieurs personnes. Ou par exemple de la mise à l'épreuve, c'est quand même quelque chose d'assez dur quand pendant 2 ans on vous force à aller voir des médecins et avoir une vie stable et travailler et prouver que vous travaillez et tout ça. Dans une société où il n'y a pas beaucoup de travail, c'est pas facile, etc. Voilà. Donc autre chose qui a été vécue comme plutôt violente par certains. Ensuite, le 19 octobre, à Poitiers, ben, les gens organisent une manif de soutien contre la répression et de protestation contre ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si tu as mieux suivi que moi ou...
Bah, ça, c'était lundi. Donc, ouais. C'était lundi 19 octobre. C'est une manifestation qui a rassemblé à peu près 1000 personnes. Bon, j'y étais pas, donc j'ai essayé de chercher des infos à travers Internet. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, effectivement... on peut toujours essayer de chercher des infos à droite à gauche. Après, je trouve, enfin, c'est un avis personnel, mais faut. Enfin, moi, j'essaie toujours de garder mon sang-froid à la lecture des récits, à la lecture du traitement médiatique, parce que c'est assez insupportable en général comment les faits sont relatés, puis surtout comment les appréciations sont données, sont balancées comme ça à la gueule des gens. C'est assez insupportable. Bon, bref, quoi qu'il en soit, oui, il y avait une manifestation de soutien. Lundi 19 octobre, elle était très 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 fliquée. De la même manière que les procès en comparution immédiate qui ont suivi la manifestation avaient donc la première manifestation avait été super fliquée jusqu'à interdire l'accès au tribunal en fait pour les gens qui avaient envie de venir soutenir. Bon, ça c'est pas une surprise non plus, quoi, de voir des cordons de policiers encercler les tribunaux. Que dire de cette manifestation qu'il y a eu. Alors, je crois que c'est. Donc, retour à la manifestation du 19 octobre, en soutien. Je crois que c'est le jour où il y a eu 3 arrestations, il me semble.
Ouais.
Et dont une personne qui a comparé. Je sais pas si d'autres gens ont plus d'infos là-dessus, mais je crois qu'il a comparé le préfet.
Oh, ah. Il a dû le comparer à quelqu'un comme genre Papon, hein, ou un truc comme ça.
Ah ouais, d'accord.
Bouh.
Bon, c'est 3 personnes qui ont été relâchées tout de suite après, je crois. Bon voilà. Je sais pas quoi dire de plus hein, sur ce rassemblement de soutien. Mis à part que c'est pas fini.
C'est pas fini le soutien ou la répression ?
Le soutien, bah les deux, je sais pas. Non, c'est pas fini le soutien. Il y a le collectif de Poitiers qui organise une fête de soutien aujourd'hui, en fait.
Et voilà, c'est ce soir. Ouais. Donc eux, ils continuent, ils font un suivi. À savoir aussi qu'à cette manifestation de soutien, il y avait quand même 1000 personnes. Donc c'est quand même beaucoup. Je pense que ce que la police recense comme des ultra-gauchistes, il ne doit pas y en avoir 1000 en France. En fait, blague à part, C'est un panel de gens très large, en fait, qui sont venus soutenir et qui soutiennent. Et c'est même des partis très institutionnels qui font partie de ce collectif anti-répression. C'est des gens qui sont pas... Enfin, voilà, les gens qui ont réagi sur place, c'est des gens qui ont été choqués par les attitudes de la police et qui le disent, quoi. Voilà. Quoi qu'ils pensent de ce qui s'est passé réellement dans cette manif, parce que ça, on va pas revenir dessus... Mais eux, ils trouvent que le traitement policier est vraiment aberrant et abusif. Donc voilà, moi, je voulais continuer un peu sur mon espèce d'obsession là sur ce terme de violence, parce que je pense qu'ils m'ont traumatisé à en parler comme ça. La suite logique de ça, c'est la tôle. Donc des gens qui se retrouvent en tôle parce qu'ils ont participé ou sont supposés avoir participé à une manifestation qui critique la tôle. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et je voulais revenir juste sur ce fait, l'enfermement en soi, c'est quelque chose qui peut être vécu comme très violemment aussi, et de nombreux témoignages le racontent. Et c'est pas uniquement la violence des co-détenus, comme on le raconte souvent, c'est aussi certains surveillants, que ce soit verbalement, physiquement ou psychologiquement, c'est aussi l'administration, c'est aussi simplement le fait d'être enfermé toute la journée, d'être loin de ses proches, de galérer pour les voir, pour leur écrire, d'avoir toute sa vie sociale bousillée, etc. Et donc, on reviendra à la fin un peu sur le sens aussi de cette journée qui critiquait la prison. On vous lira un tract que le collectif contre la prison de Vivonne-Poitiers avait écrit, parce que, au fond, le sens de cette journée, il a été complètement occulté par les médias, et au final, c'est une des choses que moi je trouve le plus intéressant là-dedans. Mmh. Et on voulait revenir quand même, hop, on fait des petits bonds comme ça, sur les annonces qu'il y a eu dans les médias.
Bah oui, alors justement, cette manifestation, à la base, elle partait d'une volonté de contester la nouvelle prison de Vivonne. Et effectivement, on en arrive à d'autres choses, en fait, en final. On en arrive à de la répression, on en arrive à une manif qui a été qualifiée d'ultra-violente, et puis forcément, on en arrive forcément à des agitations politiques, et puis des crapules, ces crapules là qu'on voit souvent à la télé, qu'on entend souvent à la radio, mais qui se déplacent et qui font des annonces. Alors c'est ce qu'on appelle l'effet d'annonce, et ça arrive. Souvent, en fait, le plus qu'on ne le croit. Et c'était juste pour dire que tout ça a donné un prétexte à Hortefeux, ancien ministre de l'intégration nationale et actuellement ministre de l'Intérieur. Ça lui a donné l'occasion de se déplacer et puis d'annoncer un certain nombre de choses, dont le retour d'Edwige. Amélioré, je sais pas trop, arrangé, quoi. Enfin, anciennement Edwige, qui avait été abandonné, plus ou moins, plutôt laissé de côté en fin d'année dernière. Peut-être ce serait intéressant d'en reparler dans une autre émission.
Ouais, ça, c'est le fichage, quoi.
Voilà, on est plus dans le fichage. Sous prétexte de surveiller des groupuscules armés, organisés, ultra-organisés. Hein. Maintenant, on n'hésite plus à marquer sur les médias des bandes hyper organisées. Bon, bref. Et puis, l'autre effet d'annonce, ça a été aussi de dire « je dissoudrai », enfin, de réutiliser cette loi de 1936 qui permet de dissoudre des groupuscules.
Pas la soude. Ouais.
Bon, bref, on va pas s'étaler forcément là-dessus, mais en tout cas, il y a toujours cet appel d'air, quoi, qui est fait, quoi. Les gens se déplacent sur place et puis font leurs programmes électoraux. C'est à se demander si Brice Hortefeux va pas se présenter aux prochaines élections. Enfin, il est passé par l'intégration nationale, il passe à l'intérieur. C'est un petit peu un parcours pré-présidentiel, moi, je trouve.
On serait bien. Bon, maintenant, il y avait un autre truc, en fait, dans ce discours médiatique. C'était beaucoup de vilains mots et de noms d'oiseaux. Alors, on voudrait revenir là-dessus maintenant.
Cui, cui.
On ne sait pas de qui
Coucou.
On parle.
Coucou. 200 individus, des militants d'extrême gauche, des casseurs.
Donc des ultra-violents.
Ces manifestants et ces militants de l'ultra-gauche.
200 guerriers roses.
Tendance ultra-gauche, casseurs d'ultra-gauche.
Groupes armés.
Des groupes communistes.
Le pôle super radical.
Un narco-autonome et...
Du gangstérisme et du banditisme.
La cellule.
La mouvance dite anarchiste.
Des extrêmes libertaires.
L'épidémie terroriste.
Le pôle super radical.
Ou les groupes invisibles.
Casseurs, les autonomes, etc.
Des groupes révolutionnaires.
Ce sont des libertaires orthodoxes, je dirais, ou des groupes gauchistes.
Franges de la jeunesse, pas contrôlable.
Cagoulés et armés comme des fous.
Petite structure.
Voilà. Très organisée.
Systématiquement ultra-violent.
Les jeunes là qui sont réunis pour tout casser.
Anarchistes. Violente d'extrême gauche,
des professionnels de l'activisme, de la violence urbaine,
nouveau type de révolutionnaire,
de groupuscule,
commando,
tes paroles, c'est du plan, tes paroles, c'est du plan, ton argumentaire, c'est la tapisserie.
Je veux pas connaître des histoires, raconte-les super loin de moi. Je veux pas sentir ton haleine, c'était un piège de t'entendre. Ta gueule.
On le voit, bon, ils contestent. À mon avis, ils vont se manifester sur des terrains comme l'écologie, sur des terrains comme l'immigration, puisqu'on peut les voir éventuellement combattre la politique d'immigration du gouvernement, sur des terrains comme, bon, sur des terrains comme la mondialisation économique, le libéralisme et la prison.
Shut the fuck up. Ta gueule. Ferme-la. Ferme ta bouche!
Tes paroles, c'est du plan! Tes paroles, c'est du plan! Ton vocabulaire, c'est de la pâtisserie! Tes paroles, c'est du plan! Tes paroles, c'est du plan! Ton argumentaire, c'est de la tapisserie!
Je veux pas connaître. Raconte-les super loin de moi. Je veux pas sentir ton
âme. On ne sait pas de qui on parle.
Je veux pas connaître tes histoires. Raconte-les super loin de moi. Je veux pas sentir ton haleine. C'était un piège de t'entendre.
Je ne sais pas de qui on parle.
Je veux pas connaître tes histoires, raconte-les super loin de moi.
On ne sait pas de qui on parle.
Pourquoi sommes-nous contre la...
Alors, voilà, donc la musique, c'était Isengrin, un obscur groupe, mais fantastique. Et donc, les paroles, eh ben, c'était les médias, encore et toujours.
Les experts.
Les experts, les policiers, déguisés en experts.
Les trafiquants d'idées.
Les vendeurs d'armes sécuritaires, etc. Donc, justement... vous avez dû en entendre parler, l'ultra-gauche, partout, à toutes les sauces, mais des fois c'est des anarchistes, des fois c'est des extrêmes libertaires, des fois, enfin, voilà. Donc les médias, ils ont stigmatisé l'ultra-gauche, entre guillemets, enfin, un énorme truc, avec tout un vocabulaire qui fait drôlement peur, quand même. Moi, quand on entend ça, ça me fait drôlement peur. Et voilà, ils créent, enfin, c'est pas nouveau. Mais il continue avec cette figure un peu fourre-tout là d'ultra gauche ou de. Ils ont un peu laissé tomber la mouvance anarcho-autonome. Ça reviendra peut-être.
On parle de mouvance. Qu'est-ce que j'ai lu l'autre fois? D'autres choses, je sais plus. Bref, pardon, j'ai oublié.
Ils inventent plein de mots. Ils reprennent en fait le langage et les catégories créées par la police. Moi, il me semble, et créées par la police pour. Criminaliser en fait encore plus et stigmatiser encore plus des actes qu'ils veulent punir, quoi. Et en fait, c'est un, mais ce fourre-tout, il est large, quoi. Il vise plein de gens. C'est cette manière de parler des gens et de leurs actes et puis de les criminaliser ensuite. Elle touche plein de gens. En fait, on l'entend un peu là dans le petit sujet qu'on vient d'entendre. Ça touche les syndicalistes et autres grévistes. On le voit régulièrement dans divers secteurs. On l'a vu à la fac de Saint-Étienne là récemment, des grévistes qui se retrouvent en conseil de discipline. Elle touche les sans-papiers et les personnes qui les soutiennent, qui sont parfois appelées terroristes, voilà. Elle touche les anticapitalistes, qu'on appelle altermondialistes, mais des fois on dit eux aussi, ils peuvent devenir super violents, etc. Donc les gens qui dénoncent la prison, d'une manière ou d'une autre, peuvent être visés. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi des habitants de banlieues ou de cités ou de quartiers qui ont participé ou non à des émeutes ou à des conflits avec la police qui étaient dans le coin ou, je sais pas, que la police avait fiché. C'est un peu pareil. C'est pas exactement les mêmes mots, le même vocabulaire, mais c'est un peu le même traitement policier au final, quoi. Voilà, donc en fait, c'est là-dessus un peu que moi j'aurais voulu conclure, c'est que... Tandis qu'un chien aboie dans les studios, ce qui est un peu déconcertant. Voilà, ce sur quoi je voulais finir, en fait, c'est vraiment que plus largement, on a l'impression qu'il y a des tas de pratiques qui rentrent pas dans un moule ordonné, qui suivent pas les chemins tout tracés, qu'elles soient contestataires ou non, qui sont la cible de la police et de la justice, et que ça, il faut un peu le justifier par la parole médiatique, quoi. Et puis les lois, il y a de plus en plus de lois, il y a de plus en plus de condamnations. C'est pas nouveau, ça va pas en s'arrangeant.
Moi, je rajouterais bien aussi que, pour finir aussi, éventuellement, que par rapport à cette loi que Brice Hortefeux a annoncée, ce retour de cette loi de 1936 qui permet de dissoudre des groupuscules, justement, cette stigmatisation et puis cette utilisation à outrage, du terme ultra-gauche, terroriste, commando, truc fourre-tout, eh bien, c'est pas pour avoir une vision un peu de l'avenir, mais ça peut permettre de casser et de neutraliser des associations de lutte contre plein de trucs, en fait. Moi, je pense aux associations de proches des détenus de prison, ou même des associations qui interviennent dans des centres de rétention, etc. Mais bref, ça, moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à ça. Ou même des syndicats, hein, pourquoi pas.
Ouais, tout à fait. Bref. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, en fait, sur ce traitement médiatique, mais on va en finir là. Donc on va revenir au début de l'histoire, en fait. Donc le début, quand même, de toute cette histoire, c'est qu'un collectif se forme à Poitiers afin de lancer un débat publiquement. Une nouvelle prison va ouvrir, c'est présenté comme la solution au problème des prisons, et eux, ils pensent que cette nouvelle prison, c'est pas une solution, en fait. Ils veulent critiquer cette prison et au-delà, lancer un débat publiquement sur la tôle, en général. Et ils ont fait pas mal d'autres choses avant, dont un tract. Et voilà, pour clore le sujet, on va écouter ce tract.
Pourquoi sommes-nous contre la prison de Vivonne ? La prison de Vivonne est une vaste mascarade. Si nous sommes contre cette prison, c'est que l'enfermement en tant que tel nous répugne, mais sa spécialisation peut-être encore plus.
Nous pourrions être contre la prison de Vivonne parce que l'association R, qui se veut une aide pour les familles de détenus, s'est vue retirer tout son espace d'intimité dont elle disposait à la prison de la Pierre-Levée à Poitiers, maison indépendante à l'extérieur des murs de la prison. Échangée contre un local où nous serons fouillés à l'entrée, surveillés par des matons et intégrés directement entre les quatre murs de béton. Donc rien de bien propice à une décompression passagère. Après la rencontre avec une proche rongée par le temps carcéral.
Nous pourrions être contre la prison de Vivonne parce que malgré les soi-disant promesses des gardes des Sceaux, il n'y a pas de cellule individuelle, que les matelas sont déjà entassés par trois dans les geôles et que l'espace de rencontre des détenus est relativement réduit, mis en quarantaine dans leur cellule de luxe, empêchant toute tentative d'échappatoire dans une complicité, une solidarité, malgré le vide qui les entoure.
Nous pourrions être contre la prison de Vivonne parce que l'administration pénitentiaire joue le spectacle de l'utile, de l'amélioration et de la lutte contre la surpopulation carcérale, pour justifier ce nouveau lieu d'enfermement. La liste d'attente est déjà saturée.
Nous pourrions être contre la prison de Vivonne parce que, comme dans toutes les nouvelles prisons, c'est un contrat public-privé qui régit la construction et la teneur de ce lieu, et qu'en conséquence, le trafic lié à l'enfermement et à la mort à petit feu s'étend de Bouygues à Alliomarie, proposant ainsi une justice privée par une milice privée.
De nombreuses raisons semblent ainsi cautionner le fait de notre engagement contre cette nouvelle prison, mais l'essentiel n'est pas dit. La prison, toutes les prisons, c'est là où on enferme ceux et celles qui n'ont pas voulu se soumettre à une vie de misère ou qui ont été accablés par l'instabilité qu'on leur impose. La prison, c'est là où on enferme les pauvres qui refusent leurs conditions en se frayant un passage débrouillard entre le code civil, le code pénal et tous ces codes faits pour reproduire l'éternelle iniquité, faits pour défendre les intérêts d'une petite partie bourgeoise et de ceux et celles qui tendent à en faire partie. La prison, c'est un lieu de mort, où les longues peines ne sont qu'homicides et les petites le début des emmerdes.
Si nous combattons la prison, c'est aussi parce que son agencement nous rappelle vilainement celui de nos rues, de nos usines et de nos écoles. Des matons aux flics, des murs de béton aux panneaux publicitaires comme dispositifs infranchissables. Et que nous combattons un ensemble bien enclenché, où cet effet d'exception souveraine, cette espèce d'anachronisme des temps modernes humanitaires qu'est la prison, comporte finalement des similarités flagrantes avec le grand commun. Si vous pensez, vous aussi, que la prison n'a rien de justicière et que le tribunal n'est pas la métaphore parfaite de la balance équitable, venez vous joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions nous renforcer et peut-être ouvrir une brèche le samedi 10 octobre à 15h sur la place des Armes. S'agissant d'un rassemblement festif, venez vêtus de tous les accoutrements possibles et imaginables, loin de leur image terne et morbide.
Voilà, c'était donc la lecture du tract qui appelait à la manifestation du samedi 10 octobre à Poitiers. C'était, on trouvait ça intéressant de leur faire partager. Et on avait juste oublié de préciser que si vous souhaitez vous tenir au courant de la suite de tout ça, eh bien, il existe un blog sur Internet. Vous savez, c'était cet héritage du Minitel en plus fliqué. Eh bien, c'est Internet. Et si vous y avez accès, n'hésitez pas à vous renseigner sur le blog qui s'appelle anticarcéral.poitiers.over-blog.fr. anticarcéral.poitiers.over-blog.fr. Voilà, c'était juste ça.
Yo, et maintenant dans votre émission préférée du numéro 0, un jeudi sur deux sur Radio Dio, on va passer à cette fameuse deuxième partie qu'on a annoncée, qu'on va parler du salon de l'autre livre qui se déroule vendredi, samedi, dimanche qui arrive là, avec pas mal de conférences et pas mal de aussi de bouquins, de trucs. Enfin, on en parlera un peu mieux après. Pour annoncer un petit peu ça et pour amorcer un petit peu la discussion, on va vous passer une interview qu'on avait faite l'année dernière. On avait interviewé Michel Reynaud des éditions Tiresias. Moi, je trouvais ça assez intéressant de leur donner la parole parce qu'ils ont une démarche assez particulière de faire parler, de faire beaucoup de témoignages historiques et voilà, d'essayer de faire parler l'histoire en partant de témoignages de petites gens. Et voilà, ils ont vraiment des chouettes bouquins qui sont parfois un peu chers à mon goût, mais vraiment pas mal de chouettes trucs. Et voilà, l'interview, elle est pas géniale, hein. C'est une des premières interviews que j'ai fait, alors soyez conciliants, voilà, bonne écoute.
Hop, parce que le truc il tourne, parce qu'il faut appuyer deux fois sur enregistrement, c'est bon.
Bah, présentez-vous.
Alors, je suis Michel Reynaud, fondateur des éditions Tiresias, et j'existe en tant qu'éditeur depuis 20 ans, et j'essaie de travailler sur notre mémoire, c'est-à-dire je travaille sur le deuxième de 33-45, c'est-à-dire le deuxième conflit mondial, première guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Pourquoi je me suis occupé de ces conflits-là ? Parce que je me suis aperçu que notre mémoire, on avait un compte à lui rendre et qu'on n'a jamais réellement fait le compte à notre mémoire. Donc il fallait que j'ai des éléments pour avoir cette mémoire. D'autant plus que je dis que je suis fils de rien. Mes parents, je suis d'une génération où les parents ne donnaient pas d'informations. C'est-à-dire que je suis né sans histoire.
Pourquoi c'est si important cette mémoire ?
Bon. La banalité dit, et à juste titre, un passé, un pays sans passé n'a pas de futur, si vous voulez. Donc, pour se construire, il faut qu'on sache d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait en tant que nos parents, et où on peut aller par rapport à cela. On ne peut pas charrier éternellement une histoire qu'on ne connaît pas.
Comment vous faites ? Comment vous arrivez à ces histoires, en fait, que vous rassemblez dans les bouquins ? Comment vous y tombez dessus ? Comment vous les cherchez ?
Alors, première chose, je me suis préoccupé de ces oubliés. J'ai une collection qui est prestigieuse et qui s'appelle « Ces oubliés de l'histoire ». Je me suis préoccupé des gens dont on ne parlait pas, c'est-à-dire les petits qui font l'histoire. Donc très tôt, et j'ai été un des rares, à commencer par travailler sur la déportation des homosexuels, les triangles roses, les triangles bruns, les triangles noirs, ciganes, les triangles violets, les bibles forgeurs. Je me suis préoccupé des gens dont on ne parlait jamais et qui pourtant avaient été déportés. Donc ma préoccupation immédiate a été d'aller vers ces oubliés de l'histoire, mais aussi vers le militant, c'est-à-dire l'homme qui un jour décide de rentrer en résistance ou de porter les valises pendant la guerre d'Algérie, dont on ne parle pas. J'ai voulu donner une histoire, une étoffe, à mon voisin peut-être, qui avait une histoire à raconter et dont personne ne savait la valeur de cette histoire.
Et ces gens-là, du coup, c'est vos voisins ? Comment vous êtes tombé dessus ? Ça m'intéresse un peu le côté humain.
Humain et... On est très prétentieux, pas orgueilleux. Orgueilleux, c'est une qualité pour moi. Très prétentieux parce qu'on juge l'autre à l'apparence. Et si, vous savez, où j'étais très amusé quand j'ai découvert que Verschuren, accordéoniste, comprend pour un crétin, a fait Dachau. Il a été déporté à Dachau pour faire de résistance. Dès que tu sais ça, tu n'as pas le même regard sur l'homme qui est en face de toi. Tu n'as pas cette science du mépris. Par exemple, quand on va à Toulon, peu de gens savent que c'est les Nord-Africains qui ont libéré la ville de Toulon. C'est d'autant plus terrible quand on sait ce qui est devenu Toulon après, dirigé par un homme dont on sait. Les choses sont différentes. Alors quand quelqu'un vient te dire les étrangers dehors, et que toi tu as expliqué que grâce à eux, aux étrangers, tu es encore français, tu as une force de combat et d'explication qui est différente. Alors mon travail c'est simple, c'est de savoir pourquoi ces hommes-là se sont impliqués, comme les Espagnols qui ont été rejetés. Ils sont impliqués pour que la France soit libérée. Et je porte un regard différent à mon voisin, qui me paraît banal, et qui en définitive a une histoire profonde, et que je veux entendre, sinon écouter.
Vous ne m'avez pas dit comment vous les rencontriez, ces gens, et comment vous étiez tombé dessus.
Il y a des hasards qui sont relatifs, ou des manuscrits, ou des recherches. Il y a des listes, on trouve. Par exemple, je viens de sortir le livre mémorial qui répertorie tout homme déporté hors juif, c'est-à-dire tous les républicains espagnols, en mettant leur nom, leur sexe, leur matricule, leur lieu de naissance. Donc j'ai découvert des milliers de personnes, puisqu'il y en a près de 80 000, qui ont été déportées qu'on ne parle pas, à part des gens célèbres. Ou simplement on m'envoie un manuscrit, ou simplement on me dit « tu devrais aller voir cette personne ». Donc, étant relativement ouvert, j'y vais. Et j'essaie de découvrir. Vous savez, il y a eu des ouvertures, par exemple, sur la guerre d'Algérie, tout d'un coup, on s'est mis à parler. Ce qui ne me permet pas de justifier le comportement des appelés. Mais ce qui m'intéressait, puisque j'ai été promis à publier un appelé qui a torturé, non pas pour le déformer, non pas d'abord pour dire « ça pourrait être moi », on ne sait pas ce qu'on fait dans un conflit, mais pour comprendre pourquoi un homme arrive à faire cela. Et pour s'apercevoir en définitive que l'autorité qui devait être là pour le préserver le pousse à commettre cela. Et pendant 40 ans, les appelés n'ont jamais parlé de leur histoire. Ils avaient honte, ils en souffraient, et on avait cet abcès contraigné. Donc j'ai ouvert la parole aux appelés d'Algérie. Et les choses se dévoilent très facilement, si vous voulez. Il suffit d'avoir le temps, la patience et puis le regard. Et en ce moment, voyez-vous, par exemple, sur la guerre d'Algérie, on est en train d'ériger des monuments à la mémoire des membres de l'OAS, c'est-à-dire les assassins condamnés par l'État français, le même État aujourd'hui, érige des monuments. Sans un petit éditeur de mon espèce, avec des gens comme Ouldaoudia, dont son père est mort avec Mouloud Feraoun à Château-Royal, assassiné par l'OAS, ou Gavouri, dont son père est mort pour la France, et qui aujourd'hui, ces assassins, condamnés et exécutés par la France, est en train d'ériger des monuments d'État, avec écharpe tricolore, érige des monuments. Sans des petites maisons d'édition comme les nôtres, le grain de sable, les choses se feraient. Donc on a énormément de choses à faire. Parce que rien n'est gagné. Et par contre, c'est vrai qu'on a des difficultés pour survivre, c'est vrai qu'on a des difficultés pour exister, c'est vrai que les médias ont tendance à ne pas parler de nous, ce qui, au lieu de nous décourager, nous donne la force encore plus d'exister.
Bla 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 bla, bla bla bla, bla 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 bla, bla bla bla, pep 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 pep.
Alors moi, je vous lancerais bien sur comment elle marche, votre maison d'édition. Parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, les micros et l'édition, comment ça marche. Déjà, est-ce que vous en vivez ?
Alors, j'en vis difficilement, mais ça, c'est mon problème. Je mets mon propre argent. Avant, en politique, tu ne gagnais pas d'argent. Aujourd'hui, tu fais fortune. Moi, en tant qu'éditeur, je n'ai pas gagné d'argent, j'en ai perdu. Mais j'ai fait ce qui me plaisait. Mais je suis une structure comme les grandes maisons d'édition. C'est-à-dire, j'ai les mêmes contingences. Un imprimeur, un diffuseur, un distributeur, un libraire, essayer d'avoir un lecteur. Attention, je suis un éditeur à compte d'éditeur. Très important. C'est-à-dire qu'un auteur qui publie que chez moi ne paie pas. Je ne joue pas les avant-gardistes. On peut avoir un semblant. Et puis expliquer, tu comprends, je ne suis pas très riche. Moi, aucun auteur sort un sou pour publier chez moi. Et il a un contrat, il y a des droits d'auteur qui sont relatifs à ce qui peut valoir, si vous voulez, ce qu'il peut désirer. Mais n'oubliez jamais que quand on fait une mise en place, parce que les libraires prennent de moins en moins de responsabilités, un libraire ne fait plus de ferme, c'est-à-dire il va mettre en place. On peut mettre 800 bouquets en place et 799 peuvent vous revenir. Mmh. Et pas d'aller un mois qui vient, non pas ça, deux ans après, il y a des retours. Donc les droits d'auteur peuvent pas être mirobolants sur des retours. Je vais pas, sur le peu que je touche, encore payer les droits d'auteur que je n'ai pas encaissé.
Alors, l'argent, d'où c'est qu'elle vient ? Comment vous débrouillez pour l'argent de départ ?
J'ai mis, au lieu de me payer une villa, etc., j'ai mis mon propre argent dans la maison d'édition. Moi, sortir un livre, c'est couvrir les frais qu'il représente pour moi. Je ne suis pas salarié. J'ai deux ou trois personnes qui m'aident, qui sont salariées, mais moi-même, je ne suis pas salarié. Je vis de droits d'auteur, mais je ne vis pas de droits d'éditeur, si vous voulez. L'argent est un vrai ou faux problème. On trouve toujours quand on veut de l'argent.
Oui, oui.
Bon, on peut faire des souscriptions, on peut faire même des braquages. Pourquoi pas ? On peut. La problématique que nous avons actuellement, c'est non pas qu'il y ait trop d'éditeurs, c'est pas qu'il y ait trop d'auteurs, c'est que les médias se préoccupent jamais du travail qui est fait ailleurs que dans des grandes maisons d'édition. C'est un manque de communication. Ça, c'est notre problème.
Et alors, du coup, comment vous faites pour la distribution de vos ouvrages que vous produisez ?
Alors, je suis classique, c'est-à-dire j'ai un distributeur qui coûte cher, j'ai un diffuseur qui envoie les libraires, mais j'ai un travail parallèle, c'est-à-dire je viens dans les salons comme aujourd'hui à Saint-Étienne, j'ai un fichier, j'essaye d'informer, il y a une association qui s'écrit à mon nom, avec laquelle on fait des dîners littéraires, des débats, par la bande, toujours en souterrain. C'est la seule façon de vivre et qui est moins dangereuse. Parce qu'un succès, quand vous montez une maison d'édition, un succès immédiat peut être plus assassin qu'un bide. Il faut penser sur le temps. J'ai l'air vieux con, mais moi je pense sur le temps.
À combien d'exemplaires vous tirez en gros vos bouquins en moyenne ?
2000 à 2000 exemplaires.
Okay.
Je tire plus des fois, mais la moyenne objective c'est 2000 à 2000 exemplaires.
Et alors moi, une sorte de truc qui me tient à cœur au fond. Je sais pas comment dire, mais votre politique par rapport au prix et à l'accessibilité de vos bouquins.
Alors, c'est exact. D'abord, mes livres sont composés. Je fais travailler un compositeur. Aujourd'hui, les gens des logiciels, ils pensent être compositeurs. Moi, je veux être professionnel. Donc, j'ai un compositeur. Je ne fais pas du numérique, je fais de l'offset. C'est beaucoup plus cher. Et n'oubliez jamais, et votre question est très intéressante, que quand un livre que vous achetez en librairie, je perds de 60% à 65% de sa valeur. C'est-à-dire, et que le livre soit vendu ou pas vendu, je vais payer le diffuseur, le distributeur, et je vais être pénalisé pour un retour. Donc, on essaie d'avoir une vente directe plus importante, mais c'est vrai qu'en général, le calcul d'un livre, c'est le prix du revient du livre multiplié par 4 à 5 fois son prix de revient.
Je sais pas, un slogan de la fin, tiens. J'aime bien les slogans. Moi.
Slogan. Pour exister, il faut résister.
Facile, mais pas mal.
Comment ?
Facile, mais efficace.
Oui. C'est peut-être je vieillis, donc ma mémoire se sclérose. Non, c'est facile et efficace. Il y a résister. Je veux dire, et vous le savez mieux que moi, il y a aussi la dimension du paraître. On est dans un système du paraître. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, c'est comme tu le dis, ou comme tu dis le faire. Moi, je considère que j'ai mis en avant l'action plutôt que le dit.
Pep, 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 bla, 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 pep, pep, bla, 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 bla.
Et nous revoilà à l'antenne, vous écoutez Radio Dio, c'est le 895, l'émission du numéro 0. Alors, pendant les dernières minutes qui nous restent de cette émission, nous allons parler du Salon de l'Autre Livre, qui se tiendra donc à partir de ce vendredi 23 jusqu'au dimanche. Pour nous en parler, nous avons deux personnes qui participent à l'organisation. Alors voilà, je leur laisse la parole pour nous présenter les trois jours qui arrivent.
Salut, on est donc toutes les deux, Élise et moi, Brigitte, de la CNT, mais ce n'est pas seulement la CNT qui organise, c'est aussi des sympathisants de la CNT. Voilà, alors très rapidement, à l'origine, pourquoi on avait fait ce salon, qui est la 5e édition en fait. Parce que on cherchait des bouquins qu'on trouvait pas forcément sur Saint-Étienne, très difficilement. On s'est dit, on va les faire venir et puis voilà. Et on va les présenter un peu à tout le monde. Voilà. Donc, ça a bien plu, ça a eu beaucoup de succès pendant 4 ans. De plus en plus de monde est venu, de plus en plus d'éditeurs et tout. Et puis, on s'est un tout petit peu épuisé. Donc, cette année, on a décidé de réduire un petit peu le champ de la formule, quoi, de l'autre salon. Donc, voilà. Et le thème, c'est donc de la guerre d'Espagne à l'autogestion. Voilà. Et ça va commencer donc dès vendredi 23. Donc là, c'est Élise qui prend la parole.
Donc, je vais présenter un peu le programme durant ces 3 jours. Déjà, il y aura plusieurs expositions sur la guerre d'Espagne. Une exposition de photographies d'exilés de la guerre d'Espagne, une autre sur l'Espagne et ses républicains pour témoins, des éditions Tiresias, et une autre de la CNT de Perpignan, qui a pour thème Révolution et guerre d'Espagne, historique et origine du mouvement ouvrier. Ensuite, par ailleurs, il y aura des livres, des CD, des DVD, entièrement sur le thème de la guerre d'Espagne et de l'autogestion. Et il y aura un programme donc de conférences de projections. Alors donc vendredi, ça commencera par à 18h par un apéro tapas, Et à 20h, ensuite, par une projection de L'Arbre de Guernica de Fernando Arrabal et en présence donc, du réalisateur. Fernando Arrabal, qui est assez connu, est un poète, dramaturge, cinéaste.
Pataphysicien.
Membre du Collège de Pataphysique, effectivement. Et réalisateur notamment de Viva la Muerte, c'est son film le plus connu. Ensuite, le samedi, on commencera à 10h par une conférence historique de Carmen Montet, qui est une fille de militant espagnol, et en présence de Manuel Garcia, qui est un témoin de la guerre d'Espagne, qui était jeune pendant la guerre d'Espagne, mais qui a émigré ensuite.
Qui est stéphanois.
Et qui est stéphanois, et qui a écrit un livre. Et donc, ça sera une conférence qui retracera un peu la chronologie de la guerre d'Espagne. Voilà. Ensuite, à midi, il y aura La Barricade, qui viendra nous interpréter essentiellement des chants espagnols, mais aussi d'autres chants de son répertoire. Ensuite, à 14h, il y aura Octavio Alberola pour La Révolution libertaire en Espagne. Donc là, le titre veut bien dire ce qu'il veut dire. Ensuite, à 15h30, les géminologues présenteront leur travail et leurs projets, ainsi qu'une sélection de livres parus en France et en Espagne sur les collectivisations. Donc là, ça sera plus sur le thème, effectivement, des collectivisations et de l'autogestion.
Les géminologues, ils étaient déjà présents au premier ou au deuxième salon.
Oui, voilà. Effectivement. Et la journée se finira par un spectacle à 17h30, Memoria, donc de trois filles de militants espagnols qui sont de la région et qui nous ont beaucoup aidés dans la préparation du salon. Et ce sera des chants, de la musique, de la danse, des textes de l'époque adaptés.
Et voilà. Et donc, on passe au dimanche. Alors, ça commence un petit peu tôt pour ceux qui pratiquent l'autogestion. On a imaginé une table ronde sur le thème des pratiques autogestionnaires aujourd'hui. Donc, pas seulement sur Saint-Étienne, mais aussi avec une intervention des SCOP d'autres régions. Voilà, ça va être vachement intéressant.
Donc là, ça sera toute une réflexion autour de l'autogestion actuelle, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde associatif ou dans les syndicats. Voilà. Comment nous, on conçoit l'autogestion, comment on voudrait la faire passer. Et donc, ça serait bien que d'autres personnes viennent témoigner aussi pour ceux qui la vivent. Et y participer. Alors ensuite, à midi, il y aura une chanteuse danseuse qui s'appelle Shelley, qui viendra nous faire une petite intervention. Ensuite, à 14h, il y aura une intervention sur l'autogestion, mais pendant la guerre d'Espagne, donc toutes les expériences qu'il y a pu y avoir à l'époque et qui ont connu une certaine réussite. Il y aura la présence de Anger Carbalera qui a réalisé un film sur ce thème. Ensuite, à 15h30, ça sera sur l'exil des républicains en France par Progresso Marine. Et la journée se terminera à 17h par un spectacle, Mémoire en rouge et noir, de Christiane Courvoisier, et accompagné d'un accordéoniste. Donc là, c'est des reprises de textes d'auteurs connus ou de personnes anonymes qui ont vécu pendant la guerre d'Espagne.
Voilà. J'ai juste oublié un truc quand j'ai présenté le salon. C'est qu'un début aussi du salon, c'était d'alimenter la bibliothèque. La bibliothèque donc qui est ouverte à tout le monde, qui est autogérée. Tous les vendredis, de 17h à 19h, à la salle 15 bis à la Bourse.
Ok, alors, tous ces événements seront lieu à la salle Sacco et Vanzetti, à la Bourse du Travail, Saint-Étienne.
Ou à la salle des conférences.
Ouais. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Peut-être on peut rappeler vite fait, mais en deux mots, ce que ça a été que la guerre d'Espagne. On a le temps. on peut dire quand même qu'entre 1936 et 1939, en Espagne, il y a eu s'opposer deux camps, on va dire. D'un côté, les méchants, c'est-à-dire les fascistes, emmenés entre autres par Franco. Et puis ensuite, de l'autre côté, les républicains qui étaient beaucoup... travaillé et beaucoup motivé par la CNT, le syndicat, est-ce qu'il se déclarait anarcho-syndicaliste ?
Oui.
Voilà, donc qui a été très puissant avant la guerre et qui a du coup, pour lutter contre le fascisme, a décidé de faire la révolution et qui a donné lieu à tout un tas d'initiatives et de pratiques collectivistes, autogestionnaires pour la vie quotidienne et pour la lutte armée contre le fascisme. Voilà. Et qu'est-ce que on peut faire une petite pause musicale vite fait ?
Ouais, bah, histoire de se mettre à la bouche, se mettre le goût. Bon, bref. on pensait s'écouter un petit morceau justement de La Barricade. Alors, c'est un extrait de l'album
bien connu.
Ça a été enregistré l'an dernier justement pendant le salon de l'autre livre et c'est un morceau qui s'appelle A las Barricadas.
L'hymne du peuple espagnol et de la CNT, A las Barricadas.
Et voilà, sous un tonnerre d'applaudissements, on va clore cette émission du numéro zéro. Donc, c'était la présentation du Salon de l'Autre Livre qui aura lieu ce week-end, donc vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 octobre. Et sinon, on va finir avec un agenda ultra rapide. Je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, donc à partir du mardi, je pense que c'est le 26, jusqu'au samedi qui sera le 31, ça c'est sûr, à Ambert et à Saint-Amand, donc c'est dans le 63, pas très loin d'ici. Il y a une semaine de réflexion et de critique et tout sur la tôle, et notamment sur... Donc c'est sur les longues peines de prison et sur les quartiers d'isolement, etc. Il y aura plein de trucs super intéressants. Il y a une annonce et un programme détaillé sur le site du numéro zéro. Là, j'ai pas le temps de vous détailler plus. Donc le site du numéro zéro pour cette info et plein d'autres infos intéressantes, c'est http://lenumerozero.net. Voilà, n'hésitez pas à participer, à publier vos articles et vos infos. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines, si personne n'a rien d'autre à ajouter.
On dirait que c'est bon.
Et ben voilà, on va se retrouver dans 2 semaines, à midi. Ce sera encore une fois l'émission du numéro zéro. Et là, elle sera rediffusée à 17h. Voilà.
Il y a un petit resto qui est sur le thème de la...
Ah, le 7 novembre ?
Le 7 novembre.
Mais on aura le temps, je ne sais plus.
Ça va être juste.
Le 7 novembre, il y aura un resto réunionnais au 10 avenue d'Enfer Rochereau à midi.
Et voilà. Une fête à la dérive le...
Le 10 novembre, le mardi 10 novembre, qui s'intitule La dérive en hors de monde. pour le moment, ça reste très mystérieux. Ça sera à 20h à la dérive. Donc la dérive, c'est un lieu collectif autogéré. Voilà.
Ok, cool. J'espère qu'on aura le temps de l'annoncer à nouveau. Et donc voilà, et pour l'heure, le numéro zéro, c'est fini. Rediffusion à 17h et on se quitte avec un morceau de l'excellent rappeur Insolite. Et le morceau s'appelle « Et l'avenir nous sourit ».
Si l'avenir est cette baudruche qui sort de leur bouche, alors t'as raison, je viens percer. Ici c'est écrit fais l'autruche, la tête dans le sable, les fesses à l'air, va chercher ton salaire et dors, les sirènes vont me bercer. Je me méfie de l'eau qui dort, les palais, au fait t'es sûr qu'ils bougent encore, ton enfant nid sur les galets. Y'a des trous noirs dans l'espace, dans l'univers de la finance, c'est là où l'argent est blanchi. Y'a des têtes de gondole, des pouces au chrome et des amuseurs de tranchées. Y'a des recherches prioritaires, être humain ce serait mieux avec des branchies. Plus les décons s'accélèrent, plus j'essaie d'être lent, dégrainer les quelques...